Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. La saison de Formule 1 2023 est lancée depuis début mars et c'est donc une spéciale F1 que nous vous proposons cette semaine. Données, algorithmes, développement logiciel, comment la tech est devenue un enjeu aussi crucial que le moteur ou l'aéro, c'est ce que nous allons explorer cette semaine dans En route pour demain.
En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co.
Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'En route pour demain et encore plus ravie parce que cette semaine, on va parler de Formule 1. La saison 2023 a débuté le 5 mars et le prochain Grand Prix se déroulera le 30 avril à Bakou en Azerbaïdjan. Alors, au-delà des pilotes, des moteurs, du design de la voiture, de l'aéro, eh bien, il y a un autre terrain sur lesquels les écuries se battent depuis plusieurs années. Ce sont les data, les données et leur analyse. La modélisation, c'est devenu un enjeu stratégique au même titre qu'une évolution moteur, à tel point qu'aujourd'hui, alors que finalement les écuries ne doivent pas dépasser un budget annuel de 135 millions de dollars, c'est le fameux COSCAP, un développement logiciel, il peut avoir la priorité sur un développement aéro, par exemple. Alors, cette importance de la tech, du cloud, des algorithmes, on va la décrypter tout de suite avec nos invités.
BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'invité.
Alors l'invité, non, en fait, ils sont deux aujourd'hui avec nous en plateau. Ce sont deux partenaires au quotidien pendant toute la saison. Bonjour Pierre Dimbleval.
Bonjour.
Vous êtes vice-président ESIT au sein de l'écurie de Formule 1 Alpine. Et à vos côtés, nous retrouvons Xavier Perret. Bonjour.
Bonjour Pauline.
Vous êtes le directeur de l'entité Azure chez Microsoft. Donc merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, est-ce que juste on peut planter le décor? Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots, alors depuis combien de temps vous travaillez ensemble? Et en fait, ce que Microsoft fait pour Alpine et comment Alpine se sert de Microsoft? Je sais pas lequel commence, du coup.
Moi, je peux commencer. Le partenariat avec Microsoft, il date de 2012. À l'époque, même l'écurie Alpine ne s'appelait pas Alpine. Mmh. Elle s'appelait Lotus, et puis elle s'est appelée Renault, et puis maintenant, elle s'appelle Alpine. Donc, c'est un long partenariat. C'est quelque chose d'inhabituel, mais quand les deux partenaires travaillent bien ensemble, je pense qu'ils ont envie de découvrir d'autres choses et de promouvoir ces partenariats.
Vous avez
il n'y a pas grand-chose à ajouter. Oui,
un mariage heureux, tout va bien.
Ce qui est intéressant, c'est de la co-ingénierie, finalement, presque, de ce qu'on fait depuis un certain nombre d'années avec Pierre, avec Alpine. C'est-à-dire que l'industrie de la Formule 1 est extrêmement critique au temps. Voilà, et la particularité, c'est un champ d'expérimentation et d'innovation. Donc, ça allait aussi au niveau de la technologie. C'est pour ça qu'en fait, Microsoft investit beaucoup. Et ça nous permet, finalement, de réutiliser un certain nombre de choses qu'on fait. Pour le produit, on va le voir, finalement, à d'autres entreprises derrière, à le fournir en termes de cloud, donc d'Azure, derrière pour nous.
On le voit, quand on regarde un Grand Prix, on voit des tas de personnes avec des ordinateurs tout autour des voitures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on prépare informatiquement une course? Parce que c'est une vraie préparation, c'est pas simplement on fait des petits dessins sur un ordinateur.
Et exactement. Alors, on a besoin de data pour préparer les courses et on a besoin de data pendant les courses pour réagir vite. Quand on prépare les courses, faut savoir que maintenant, la réglementation en Formule 1, elle interdit la plupart des tests physiques avec la voiture et son pilote dedans. Il y a quelques essais de pré-saison, mais sinon tout le reste, ça se fait via la simulation, via les ordinateurs, via les algorithmes et via l'acquisition de données. Donc on a évidemment l'acquisition de données, par exemple dans la soufflerie et avant ça dans la simulation aérodynamique. Donc les ingénieurs, pour ressentir comment va se comporter la voiture pendant la course, ils n'ont que la simulation numérique. Donc on comprend bien que la tech, le software, la capacité de puissance, la capacité de stockage et la puissance de calcul, sont clés pour obtenir le maximum de performance de ce système homme-machine qu'on retrouve sur les circuits.
Concrètement, ça veut dire qu'avant une course, vous allez modéliser quoi? Des stratégies de course? Vous allez modéliser s'il pleut, s'il fait 35 degrés?
Ce qui est incroyable en Formule 1, c'est qu'il y a une vingtaine de courses dans l'année, mais en fait, aucune ne se ressemble, puisque chaque course est différente. Monza est différente d'une autre course derrière. C'est sur la voiture elle-même 300 capteurs, donc on a agrégé beaucoup de données en amont. Déjà, et puis effectivement, il y a le temps qui va jouer, il y a la facture de la course, peut-être la façon dont le pilote conduit, donc qui va modéliser finalement un certain nombre de parcours, de choses pour, améliorer la voiture dans les à peu près 15 jours en général qui séparent deux courses. Donc, il faut aller très vite pour modéliser ça. Et puis ensuite, après, tout va se jouer pendant la course, on va le voir. Mais rien n'est fait, en fait, pendant la course, c'est ça qui va être intéressant. Mais avant la course, effectivement, ça va être une course déjà à la vitesse, pour pouvoir construire ce qui sera le meilleur par rapport à la situation prévisionnelle, quelque part, de la future course.
On le voit souvent, le vendredi, il y a une des deux voitures qui est bardée de capteurs, qui a même plus de capteurs que l'autre, et puis qui emmagasine des data. Qu'est-ce que vous faites de toutes ces données
Alors ça fait partie de la chaîne, ce qu'on appelle la chaîne de corrélation. Quand on simule numériquement quelque chose, après on a tendance à vouloir vérifier si on n'est pas trop loin de la réalité. Donc les capteurs effectivement qui sont montés parfois sur les voitures le vendredi, c'est pour corréler les données de simulation qu'on a générées pour préparer la course. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces données? Justement, on étudie où est-ce qu'on peut gagner du temps en mettant un petit peu plus de charge aérodynamique. Vous savez, c'est le compromis habituel entre vitesse de pointe en ligne droite avec pas trop de charge aérodynamique et beaucoup de vitesse en virage quand on met beaucoup de charge aérodynamique. Donc toutes ces données, elles vont permettre de régler au mieux la voiture en fonction des conditions de course, mais aussi du ressenti des pilotes. Xavier l'a dit, il y a 300 capteurs dans la voiture, il y en a 301. Il y a aussi le pilote, et le pilote c'est un super capteur qui donne plein d'informations pour corréler la réalité avec ce qu'on a pu prévoir avec les ordinateurs.
Ça veut dire que Xavier, vous, vos équipes, elles sont dans le garage à analyser tout au long de
Alors,
de la saison.
C'est des équipes d'Alpine qui vont analyser, mais qui vont utiliser effectivement les technologies qui sont dans le cloud et puis un certain nombre de technologies d'outils derrière. Puis ensuite, après, on va aider à améliorer ces outils-là, à changer les algorithmes peut-être. Voilà, il y a différents moyens. À la fin, c'est quand même Alpine qui fait le travail derrière, à la fois avant et puis pendant aussi, puisqu'on va y revenir. Pendant, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer pendant la course.
Alors justement, pendant la course, parce que vous en parlez, il y a quand même le pilote. Truc très basique, vous avez une super stratégie, vous avez une super modélisation. Le pilote, il vous dit « Ouais, mais moi, dans la voiture, là, je ressens pas ça, donc on va pas faire comme ça. » Qui est-ce qui gagne? C'est la modélisation, c'est l'ordinateur ou c'est le pilote, le ressenti sur la piste?
Même si on a l'impression que la Formule 1, c'est un sport individuel, en fait, c'est un sport d'équipe. Et l'équipe qui comprend maintenant presque 1500 personnes, tout le monde est focalisé pour que le système dans son entièreté, y compris le pilote, la voiture, puis tous les systèmes opérationnels qui la surveillent, travaille en équipe. Donc évidemment, l'avis du pilote est super important, parce que s'il n'y avait pas ce facteur humain, ça ne s'appellerait plus un sport, ce serait une performance technologique et puis c'est tout. Et il y a des courses de robots.
De voitures autonomes qui sont en train de se mettre en place.
Oui, absolument, il y a des courses de robots qui sont organisées. Donc on a besoin du feedback du pilote. Et puis, on doit aussi prendre en compte ses émotions. Donc aujourd'hui, grâce à la technologie, on arrive à sentir certaines choses, certaines tendances dans les retransmissions audio ou dans les captations vidéo qu'on arrive à faire. Donc c'est plus seulement de la donnée mesurée par des capteurs de pression, d'accélération, de vitesse et plus encore. Mais c'est aussi de l'analyse de sentiments, quand on analyse les communications entre le pilote et son ingénieur, on essaye de décrypter.
Vous pouvez nous expliquer ça veut dire, parce que pour expliquer un peu à nos téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément la F1, quand on suit un week-end de course, il y a un certain nombre de conversations qui sont publiques entre les écuries, entre le directeur de course, un ingénieur et le pilote qui est sur la piste. Ça veut dire que vous avez créé des modèles et vous êtes capable d'analyser chez vos concurrents et de savoir que là, Toto Wolff, le patron de Mercedes, sa voix, elle veut dire qu'il dit un truc, mais c'est pas vraiment ça?
Alors on n'entend pas Toto Wolff. Ce qu'on a le droit d'entendre, c'est la communication entre l'ingénieur de course et son pilote. C'est les seuls enregistrements qu'on a le droit d'écouter. Mais effectivement, on va utiliser les cognitive services qui sont de base dans Azure Cloud pour détecter si un mot revient systématiquement dans la conversation. Ou si sur certaines séquences de course, il y a toujours le même style de communication entre le pilote et son ingénieur. Oui, c'est des choses où on va essayer de savoir comment se comportent les autres au moment où il faut prendre une décision.
Et ça veut dire que c'est quelque chose que vous faites consciemment ou vous vous dites ils se disent la même chose, ça veut dire qu'ils sont en train d'essayer d'enfumer les autres écuries?
C'est des signaux faibles. Là, on voit l'impact des algorithmes finalement et de l'intelligence artificielle. C'est que c'est des signaux faibles qu'on peut avoir, comme une entreprise qui a des signaux faibles sur son marché, des clients qui sont plus ou moins contents, qui va agréger tous ces signaux et va sortir, on va dire, des éléments pour que la partie technique, voire le pilote, le copilote, puisse finalement prendre des décisions. Donc là, on est vraiment dans l'IA ou les algorithmes comme copilote, finalement. C'est presque un copilote au moment de la course. C'est-à-dire qu'au début de la course, a priori, tout est bien calé, mais il peut se passer plein de choses pendant la course. La météo qui change, les pneus, quelqu'un a changé des pneus, on s'y attendait pas, etc. Et du coup, effectivement, ces signaux faibles vont remonter, vont être agrégés, puis ça va permettre des éléments d'information pour qu'à la fin, le technicien ou le copilote, finalement, le pilote, puisse prendre les bonnes décisions de « Ah là, c'est le moment pour, ah là, je sens une fébrilité chez l'autre ». Voilà, c'est un jeu de chat et souris, hein, finalement, hein, voilà, derrière.
On le disait tout à l'heure, le facteur humain, il est chez le pilote, mais il est aussi dans celui qui prend la décision stratégique. Oui. On n'utilise pas la technologie pour remplacer les ingénieurs, mais plutôt pour les augmenter leurs capacités et les focaliser. Et les focaliser sur l'information importante. En fait, c'est ça qu'on cherche à faire. On capture un maximum de données, et ben transformer la donnée en information importante. Pour celui qui doit prendre une décision, c'est tout l'enjeu des systèmes d'information dans la F1.
Mais alors du coup, ça doit aller super vite, parce que bon, le but de la F1, c'est d'aller très vite, mais cette analyse des données, les récolter, il faut les récolter vite, mais il faut aussi derrière pouvoir, je me doute au niveau des équipes de Microsoft, pouvoir rebalancer toutes ces données aux équipes d'Alpine pour qu'elles se disent « bon là, j'ai toutes les cartes en main, et comment on fait pour aller accélérer comme ça ?»
C'est là où la technologie est importante finalement, et c'est là où c'est intéressant de travailler avec une entreprise française comme Alpine pour Microsoft, c'est que cette industrie, elle est très critique au temps. Donc effectivement, il faut des plateformes technologiques qui soient extrêmement rapides à analyser et à donner cette visualisation pour que voilà, les gens puissent prendre les bonnes décisions derrière. Donc c'est ce temps de latence, souvent on l'appelle comme ça, d'aller-retour vis-à-vis du cloud, des choses à faire en local, des choses à faire en global. Finalement, c'est tout un sujet d'architecture aussi derrière. Mais c'est la clé finalement pour prendre des bonnes décisions effectivement derrière, quasi ou en temps réel en l'occurrence derrière. Donc c'est un vrai avantage concurrentiel derrière.
L'arrivée de la puissance de calcul dans le cloud, dans le nuage, ça a été vraiment un facteur d'accélération, la capacité de disposer de la puissance du calcul nécessaire quand on a réellement besoin et ne pas l'utiliser quand on n'est pas en course ou pendant le break de l'été qui est un rituel dans la F1. Donc ça, c'est quand même... On est assez avide de toutes ces avancées et on est prêt à les tester parce qu'on prend le risque finalement pour nous-mêmes, pour notre équipe. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises de technologie qui sont intéressées pour venir collaborer avec nous dans la F1. C'est parce qu'on est toujours avide de tester des avantages technologiques.
Vous le disiez à l'instant, hein, la Formule 1, c'est aussi... on aime bien tester des nouvelles choses, c'est votre quotidien. Justement, vous avez un exemple concret d'un moment en course pendant la saison dernière où vous avez testé une nouvelle solution venue de chez Microsoft et où là, ça a fait la différence. Vous avez réussi à gagner des secondes, à peut-être gagner des places.
Alors ça, je ne vais pas vous le dire, parce qu'on est quand même qu'au début de la saison 2023. Mais tout à l'heure, je vous ai dit quelque chose sur l'analyse de la vidéo et de l'audio. Ouais. Ça, c'est clairement des choses qu'on faisait moins il y a quelques années. Et c'est quelque chose que les Cognitive Services qui sont disponibles dans Azure nous ont permis, très simplement, par exemple, les discussions entre ingénieurs et pilotes. Avant, on avait des gens qui écoutaient la conversation et qui retranscrivaient par écrit la conversation.
Donc maintenant, on le fait automatiquement. Une marge d'erreur assez importante quand
exactement.
On écoute.
Exactement. Maintenant, et puis un temps aussi de restitution qui était plus long. Avec la solution dans le cloud d'Azure, on a la transcription automatique de tout ce qui se raconte entre pilote et ingénieur de course.
Finalement, c'est un super ChatGPT que vous...
Alors, c'est effectivement l'IA génératif avec ce qu'on fait avec ChatGPT, Microsoft et OpenAI sont très, très impliqués ensemble. Effectivement, ouvre d'autres champs effectivement d'analyse sémantique, en l'occurrence, de compréhension du langage, sur toutes ces conversations qui se passent. Donc ça ouvre des possibilités encore supplémentaires. Je voudrais aussi rajouter d'autres algorithmes qu'on a utilisés et qui se trouvent, on utilise aussi dans d'autres industries. C'est dans l'industrie financière, les algorithmes qui ont besoin comme ça de cette criticité au temps, c'est aussi la finance et le trading financier. Et donc, par exemple, il y a certains algorithmes qui sont utilisés dans les deux industries parce que justement, ils ont besoin de ce temps très court pour décider derrière, pour avoir cette analyse très rapide. Donc, c'est intéressant d'avoir des passerelles comme ça de technologie entre d'autres industries.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi former les pilotes à lire ces datas ou à s'en servir, parce qu'il y a peut-être des pilotes qui sont réfractaires à ce genre de choses.
Alors, les nouvelles générations de pilotes sont quand même très rompues. Elles passent déjà beaucoup de temps dans les simulateurs, que ce soit chez eux-mêmes avec leur
propre simulateur. Entre les courses, analyser l'après-course.
Et puis le simulateur qu'on a dans l'écurie. Donc, c'est des gens qui parlent assez naturellement le langage des datas. Après, la transcription de ce qu'ils ressentent, eux, dans la voiture... Ils le font avec des mots, donc il faut quand même cet élément de de traduction de leurs ressentis en données un peu plus physiques.
Et vous c'est là où un algorithme pour analyser ce que disent vos pilotes des fois.
On pourrait penser à ça effectivement, mais on leur présente des courbes, on leur présente pour qu'ils essayent de eux-mêmes arriver à traduire effectivement à cet endroit-là j'ai senti ça et voilà ce qui s'est passé.
Est-ce que ça vous aide? Parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de nouveaux circuits qui arrivent, depuis que les pilotes ne connaissent pas et les écuries non plus, où il n'y a pas justement cet historique de data que vous pouvez avoir sur d'autres circuits mieux connus. Comment vous, justement, ces données, les algorithmes peuvent vous aider à progresser plus vite, à vous imprégner plus vite d'une piste que vous ne connaissez pas forcément?
Alors, ça, c'est une difficulté. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'en F1, on ne fait pas du big data, on fait du fast data. Parce qu'en fait, on n'a que deux voitures et on capture de l'information sur, effectivement, des saisons qui ne se ressemblent pas tant que ça. Le règlement technique fait que la voiture change, donc elle n'est pas reproduite de la même manière d'une saison à l'autre. Donc on va essayer de chercher justement là où on peut avoir des corrélations d'une saison à l'autre. Donc un nouveau circuit comme celui de Las Vegas qu'on va avoir cette année dans la saison 2023, on sait que c'est un circuit en ville, que la course va être de nuit, donc on va regarder les courses comparables comme Bahreïn ou Singapour, où on est en ville et de nuit, donc peut-être qu'on va être plus proche de la configuration de Las Vegas que si on regarde les données d'Austin. Donc on va essayer de faire du pick and choose, de choisir les données sur des configurations qui se ressemblent. Mais il y a une part d'inconnu, par exemple le tarmac, le revêtement de Las Vegas, on ne le connaîtra pas. Alors qu'il y a certains circuits où on a des scans physiques de la piste et on peut les reproduire dans le simulateur.
Justement, Xavier, comment vous vous préparez chez Microsoft à ces nouvelles pistes, ces nouveaux circuits ?
C'est chez de simulation comme en industrie, on appelle soit ça les métavers industriels en fait, c'est comment je simule des nouveautés, sachant que les algorithmes savent très bien reproduire ce qui s'est passé dans le passé. Et donc c'est comment, comme le disait Pierre, on va finalement simuler un nouvel environnement avec sa dose d'incertitude, et puis assez rapidement pendant les essais, on va affiner finalement les meilleurs scénarios derrière. Donc c'est ça en fait qu'on travaille beaucoup, c'est des technologies qui sont spécifiques sur les jumeaux numériques, puisqu'on a des jumeaux numériques, on a un petit peu parlé, mais on a des jumeaux numériques de la voiture, on peut même les voir en trois dimensions, il y a des casques de réalité mixte derrière. Donc voilà, ça, comment on va simuler cette course, sachant que le nombre de paramètres est juste énorme derrière.
Justement, sur ces jumeaux numériques, il y a des éléments où ça vous a permis de plus progresser parce que vous n'arriviez pas à faire des mesures, je ne sais pas, sur de l'aéro ou sur du pneumatique, où c'est peut-être plus compliqué de savoir ce que va faire la pièce, et le jumeau numérique vous permet de tester plein de solutions et du coup de vous dire, là, ça va se comporter de telle ou telle manière.
Ouais, le jumeau numérique, comme on vient de le dire, le jumeau numérique de la voiture, ça fait un petit moment qu'il existe. Maintenant, on arrive à mettre dans le simulateur le jumeau numérique de la voiture et puis son environnement proche, qui est la piste. Demain, on aimerait bien aussi, sous règle de COSCAP, avoir le jumeau numérique de l'écurie. Pour pouvoir optimiser au maximum toutes les ressources qui sont à notre disposition, voir où est-ce qu'on perd du temps, pour pouvoir développer plus sur la voiture. Donc cette notion de jumeau numérique, elle est en train de s'étendre progressivement au-delà du produit qu'on fabrique et du système qu'on opère. Elle augmente jusqu'à la taille de l'entreprise.
Est-ce que ce jumeau numérique, vous allez même jusqu'à le pousser à la manière de piloter qui fait qu'il va peut-être tirer plus ou moins d'une certaine manière sur le volant et du coup faire qu'il y a des résistances qui vont se faire sur les pièces.
La façon de conduire est d'un des éléments selon les pilotes. Derrière, c'est un des éléments qui font évoluer effectivement les choses. C'est pas que la voiture qui est stable, c'est configuration qui change tous les ans, comme le disait Pierre. Donc en plus, il y a ces règles qui changent, les circuits. Enfin, c'est une complexité jusqu'à effectivement la façon comme nous-mêmes on conduit finalement. On ne conduit pas de la même façon. Ce qui permet d'ailleurs de former ou de faire améliorer en simulation le conducteur, le pilote, qui lui-même, comme le disait Pierre, permet de voir là où il a senti des choses et donc où il pourrait corriger les prochaines fois, là où peut-être il freine trop vite, enfin voilà, des choses comme ça.
Une anecdote, ce sera la troisième, je crois, sur le facteur humain. Quand on est dans le simulateur, qu'on met le modèle de la voiture, on met le modèle de la piste, on met le modèle de température et on optimise tous ces paramètres, on a normalement la voiture idéale pour ce circuit dans ces configurations. Vous mettez un pilote dans le simulateur, il va vous dire « Non, mais la voiture est inconduisible. »
Tout explose.
Moi, il me faut beaucoup plus de sous-virage, il me faut beaucoup plus de réactivité de la voiture, beaucoup plus de balance sur l'avant, la balance des freins et tout ça. C'est là que le facteur humain entre en jeu et il faut prendre en compte ce capteur supplémentaire qu'est le pilote qui, lui, va extraire toute la performance d'une machine qui roule à 350 à l'heure.
Si on se projette un peu, on sait que 2026, il va y avoir des gros changements de règlement. Alors, on ne connaît pas tout, mais il y a notamment au niveau des motorisations, des carburants, il y a pas mal de choses qui vont changer. Comment vous travaillez ensemble à cet horizon de temps-là où il y a tellement de choses qui vont changer qu'il faut pouvoir se préparer et imaginer plusieurs situations ? Pour développer la voiture notamment.
J'allais dire c'est simple, en fait c'est pas du tout simple.
Mais, ça serait mais trop
méthode,
facile sinon.
Mais la méthode, c'est dès lors qu'on a un soupçon d'informations sur les réglementations qui seront les nôtres en 2026, on va immédiatement commencer à travailler des modèles qui correspondent à cette réglementation. Donc on a déjà des indications sur la configuration des moteurs qui sera proche de celle qu'on connaît aujourd'hui, mais simplifiée, avec des machines électriques, puisque les moteurs sont hybrides depuis 2014, mais des machines électriques peut-être un petit peu plus simples à gérer. Sur les règles d'aéro, on a aussi des premières directions. Donc il y a une partie de l'équipe déjà aujourd'hui qui travaille sur les modèles 2026.
Ouais, l'intérêt aussi, on ne va pas simuler, si on ne va pas construire une voiture, construire une nouvelle voiture qui potentiellement serait sur cette réglementation et la faire tourner longtemps. On va simuler tout ça dans un monde numérique, du coup, pour commencer à voir comment elle peut réagir et commencer à optimiser les choses.
Bon, écoutez, messieurs, merci beaucoup. En tout cas, on va déjà regarder la prochaine course en vous souhaitant une bonne saison et beaucoup de succès. Et on va rester dans le domaine des sportifs pour finir cette émission avec un modèle qui va bientôt tirer sa révérence. C'est l'Audi R8, la supercar de la marque Ozano. Mais en guise d'adieu, Audi a prévu plusieurs versions spéciales, plusieurs séries spéciales, comme celle Qu'est-ce qu'il y a quoi et Antoine Larry-Gaudry nous font découvrir aujourd'hui.
BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'essai.
C'est sans doute une des dernières, donc il va falloir en profiter. Audi va tout doucement commencer à arrêter la production de son Audi R8, sa supercar emblématique, en terminant par un véritable feu d'artifice, un collector, la Audi R8 Performance RWD que voici. La ligne de la R8, on la connaît depuis 17 ans maintenant, c'est une des supercars à la carrière la plus longue de l'industrie automobile. Elle est assez emblématique, alors ces énormes jantes sport noires, massives, des freins rouges, des mâchoires de freins rouges, des freins par ailleurs extrêmement puissants, et une ligne totalement emblématique qui a été l'expression du design Audi pendant très longtemps, avec un avant relativement court et un arrière massif où vient se loger le moteur en position centrale arrière. On a l'impression qu'il fait le voyage un peu avec nous. Très bruyant, vous allez voir, et on va l'essayer tout de suite. Et au cœur de cette voiture, il y a un moteur assez extraordinaire quand même. 10 cylindres V10, 5 litres 2. Il est entièrement atmosphérique, il n'y a pas de turbo, il n'y a pas d'assistance électrique ni d'hybridation. C'est vraiment un moteur à l'ancienne, extrêmement puissant, 570 chevaux et d'une cylindrée de 5 litres 2. Donc énormément de coffre, énormément de puissance. Cette Audi R8, il faut bien le préciser, RWD, comme on le disait, elle n'a pas de transmission intégrale, de transmission quattro. La puissance est uniquement distribuée aux roues arrière, d'où des sensations assez pures et un sentiment de légèreté. Et après cette balade dynamique, retour sur Terre. On va parler prix et évidemment un prix de supercar. 168 250 euros prix de base, hors option pour cette Audi R8 Performance RWD. C'est le prix du collector ultime que représente cette voiture. Il y aura une toute dernière série RWD GT qui sera encore plus puissante, encore plus chère. Elle sera au-delà des 200 000 euros. Mais c'est sans doute la note à payer pour un adieu somptueux à cette R8 d'Audi.
Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce numéro d'En route pour demain spécial Formule 1. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et tout au long de la semaine sur Tech & Co. Prenez soin de vous, à très vite.
En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.